Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeu vidéo sur Tech & Co. Eh bien, les vacances sont enfin là, pour nous aussi, bientôt, quand même. Donc, on vous livre une dernière petite émission, l'occasion surtout pour nous de faire le bilan de la première partie de l'année. Ça a été chargé, on va voir si ça l'a été vraiment de bonne qualité. En tout cas, j'ai deux super invités pour parler de ça. Et tout d'abord, Julien Chiez. Comment ça va, Julien ?
Salut Melinda, ça va bien ?
Ben écoute, ça me fait plaisir de te voir là.
Bah moi aussi, franchement, pour parler un petit peu de ce début d'année un peu... Contrasté.
Contrasté, j'aime bien le mot contrasté. Et avec toi, maintenant on va dire quoi, un vieux de la vieille de l'émission. Comment ça va, Menro ?
Eh bien, ça va très bien. Bonjour à tout le monde, bonjour.
Eh bien, on va parler de ce début d'année. Vous allez me donner votre avis. Est-ce que c'est un bon début, un début en douceur, peut mieux faire ? En tout cas, on va revenir sur les temps forts, sur les jeux qui nous ont impressionnés, nos petits coups de cœur, nos grosses déceptions. C'est parti, on démarre avec l'actu à chaud. Bon, elle est à chaud depuis 6 mois, hein. On va pas se mentir. Je voulais revenir avec vous, redérouler le début d'année, messieurs, avec déjà une partie, petite partie actu, sur, allez, 3 temps forts qu'on a, on a isolés de ce début d'année, 3 moments marquants. Tout d'abord, ça a commencé un peu fort dans l'industrie avec des licenciements à gogo, Julien. On va se le dire, au mois de janvier, on a parlé que de ça, Sony, Microsoft avec 1800-1900 personnes, Electronic Arts, tout le monde a dégainé et tout le monde a dégagé surtout.
Et malheureusement, en fait, c'était dans la continuité de l'année précédente. Ça veut dire que là, en l'espace de 1 an et demi, parce qu'on est à la mi-temps de cette année 2024, on parle quand même de 20 000 personnes qui ont perdu leur emploi dans l'industrie du jeu vidéo. C'est énorme, c'est sans précédent. Alors évidemment, on pourrait se dire qu'il y a un rattrapage par rapport à ce qui s'était passé dans la période Covid, où ça avait par contre beaucoup embauché. Mais enfin, moi, je ne peux pas faire autrement que de penser quand même à celles et ceux qui, aujourd'hui, dans une industrie qui est tendue, se retrouvent sans emploi. Et je trouve que ça donne quand même un petit peu la teinte, justement, de ce qui se passe dans l'industrie. Et c'est clairement pas très reluisant.
Alors, surtout, Menro, il y a eu des licenciements. On sait que y a tous les jeux de 2023 qui aussi ont été terminés. Il y a eu beaucoup de fermetures de studios. On sait que notamment, alors chez Microsoft, on a parlé beaucoup d'Arkane Studios, de Tango Gameworks. Qu'est-ce qui en dit plus ? Les nombreuses fermetures de studios ou les licenciements ?
Bah les deux vont de pair, malheureusement, j'ai envie de dire. On voit comme ça qu'il y a eu pas mal de fusions, acquisitions. Enfin, il y a eu énormément comme ça de récupérations. Et c'est vrai que quand après, on se retrouve dans un grand groupe, bah souvent, il y a des postes qui font doublon. Et sous cet argument-là, qui peut être aussi un argument fallacieux, on peut se retrouver avec, effectivement, des gens qui sont mis sur le carreau. Et c'est quand même assez triste de voir à quel point notre industrie a subi, l'industrie du jeu vidéo en tout cas, a subi de plein fouet ce que j'appelle la bulle du Covid. À mon échelle, je l'ai vécu du côté du divertissement, des programmes qu'on pouvait avoir en streaming live, et de voir comment est-ce que les choses ont explosé juste après. C'est sûr que quand on s'habitue à des chiffres faramineux, tout d'un coup, ça devient un peu compliqué de justifier une décroissance quelque part.
Mais c'est là où je trouve quand même que c'est assez choquant, parce qu'on regarde un petit peu les principaux acteurs de l'industrie du jeu vidéo, tous annoncent des résultats records.
Oui, c'est ça.
Et dans le même temps, ça charcle extrêmement violemment, et je trouve qu'il y a quand même un cynisme évident. Et quand on voit, alors là on va prendre l'exemple par exemple de Tango, qui a été donc un studio japonais, qui était le seul studio japonais de Microsoft, qui désirait depuis tant d'années en avoir un, qui a évoqué qu'ils avaient envie d'avoir des studios qui leur faisaient des petites pépites qui gagnent des prix. C'était exactement le cas de Tango avec Hi-Fi Rush, qui avait gagné des prix aux Game Awards, et ça a été réglé en 3 lignes.
C'est vrai.
Je trouve que c'est ultra brutal, c'est le monde
violence
d'aujourd'hui. Je découvre pas, mais quand même.
Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Alors, hormis le cas Tango Gameworks, qui est un peu un cas à part, parce qu'en effet, juste avant, Phil Spencer avait dit « Nous, on veut des studios originaux et tout. » Et là, il dégage celui qui avait fait
et
un
Matt
peu le
Dutty,
jeu.
Et dès le lendemain, le confirme aussi. Donc, voilà. À un moment, mettez-vous d'accord.
Est-ce qu'à un moment, nous, on voit ça de notre point de vue français, où on sait que le droit du travail est très encadré, aux États-Unis, on arrête un jeu, on arrête une mission, on dégage, on part faire autre chose. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un décalage parfois entre ce que nous, on entend en Europe de réaction, et aux États-Unis où on a l'impression qu'on a des chiffres faramineux mais que ça ne réagit pas beaucoup?
Mais tu dis les États-Unis et tu fais bien, parce que moi je ne mettrais pas que l'Europe, je mettrais aussi le Japon.
Oui.
On a vu que quand Nintendo n'allait pas bien dans la période de la Wii U, qu'est-ce qu'a fait Satoru Iwata, qui était le président de Nintendo à cette époque? Il a commencé par baisser son salaire et préserver les emplois, en soulignant qu'une société dans laquelle les employés craindraient à tout moment de se faire licencier ne pouvait pas créer, dans un monde quand même de la créativité, des futurs bons jeux. Alors évidemment, je ne suis pas dans le monde merveilleux des bisounours, quand ça ne va pas à un moment ça coupe, mais je trouve que ça philosophie qui s'est concrètement produite me paraît beaucoup plus saine, en tout cas, que celle d'afficher des milliards de records et en même temps de virer en trois lignes des gens.
Et qu'est-ce que tu fais des jeux où, par exemple, on sait que ce sont des petits studios où ils sont normalement 50, ils montent à 400 quand ils se retrouvent sur des temps forts de création. Qu'est-ce que tu fais des 350 à l'arrivée si tu ne sais pas quoi leur faire faire derrière? Moi, c'est toujours la question que je me pose, parce que c'est horrible d'annoncer des chiffres comme ça. On sait que c'est des vases communicants dans le jeu vidéo. Dès qu'il y a un studio qui va être, un jeu qui va être sur un temps fort de croissance, il va réembaucher des gens, donc il faut aussi les trouver. Et est-ce que nous on a une vision, Menro, qui est biaisée avec notre droit du travail, voilà, ou est-ce que c'est l'économie quelque part du jeu vidéo qui fait ça aussi?
Au-delà des idéologies qui sont fondamentalement vraiment différentes, comme tu le disais, entre cette pensée peut-être un peu japonaise et une sorte de protectionnisme de Nintendo envers ses employés, etc., et la jungle que peut être l'économie américaine, il y a peut-être une voie un peu... Voilà, nous, on a des petits studios qui ont fait recette l'an dernier, qui se sont distingués avec des jeux d'une énorme qualité. Je pense à Juzan, je pense à Chant au Sénat ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que nous, on a quelque chose qui est un petit peu plus peut-être agile, le CDD.
Non, mais c'est vrai.
Et on a les aides, surtout les aides de l'État, qui sont aussi, mine de rien, des contres. On prend les vagues, mais ça tangue un peu moins peut-être.
C'est vrai qu'aux États-Unis, ils n'ont pas de CDD. Enfin, ils n'ont pas de cette notion du CDD. C'est un peu radical. C'est-à-dire que tu fais une mission, t'as fini, tu dégages. C'est peut-être un peu aussi. Faudrait qu'on compare les chiffres au ratio en France. Et mais c'est vrai que les fermetures de studios, pour moi, sont plus marquantes. Quand on voit que PlayStation abandonne ses studios de réalité virtuelle, là, ils ferment, ils virent tout le monde. Enfin...
Moi, je crois qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps aussi de se dire que dans l'industrie du jeu vidéo, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux et qu'on a beaucoup de plus de choses, etc., mais pas beaucoup de mieux. Et à mon avis, pour tout le monde, réduire un peu la voilure, peut-être passer un tout petit peu plus de temps et bien fignoler les jeux, plutôt que vouloir faire plus, mais peut-être avec donc des équipes un peu plus petites, un peu plus resserrées, serait mieux en fait pour tout le monde. Ça permettrait de ne pas avoir ces espèces d'énormes amplitudes salariales qui font quand même aussi de la casse, et ça permettrait peut-être aussi d'avoir des meilleurs jeux. Et on peut quand même noter dans les charts, de manière très très claire, les très bons jeux se vendent très bien.
Et puis il y a beaucoup de jeux indés de petits studios aussi.
Les moins bons jeux, généralement en ce moment, ça tanque. Et donc, cet équilibre, il n'est pas toujours très bien respecté.
Tu nous fais le programme de l'émission.
Il y a clairement des jeux, quand on les voit annoncés, on se dit, mais encore ce concept-là, encore ce genre de design, encore ça. Là, je vois sur toutes les conférences qu'on a pu observer au Summer Game Fest et tout ce qui a été accolé autour, le nombre de Battle Arena où on a en équipe de 4, où il faut shooter sur l'autre équipe... On a vu ça, c'est comme à l'époque où League of Legends est sorti, tout le monde voulait son League of Legends. Il n'y a pas la place pour tout le monde à chaque fois là-dessus. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Combien de jeux ont été présentés et à la seconde où on les a vus, on s'est tous dit ça ne marchera jamais.
Et
ça n'a pas marché la plupart du temps. Alors, évidemment, il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des surprises, des pépites, etc. Mais si on fait de manière lissée sur quelques années, je crois qu'on reparlera de certains titres. Suicide Squad, si tu nous entends. qui a pensé dès la première présentation que ça allait marcher? Tout le monde s'est dit OSEF, ça ne marchera pas. Et ça n'a pas marché.
Moi, j'y ai cru sur la première avant qu'il bascule jeu service.
Parce que toi, tu es la bonté incarnée.
Ouais, mais moi, je suis gentille, j'y crois chaque fois. En parlant de choses, de gens qui s'y croient et qui se plantent, Embracer aussi est un peu dans cette mouvance du plus, plutôt que du mieux. Voilà. Ouais. Pour ceux qui ne sauraient pas, qui est Embracer Group, ce groupe suédois qui voulait racheter tout le monde, pour faire un géant du jeu vidéo et qui a fini par exploser en plein vol et à lui-même s'auto... comment dispatcher en groupe et surtout vendre Gearbox, acheté 1,3 milliard, revendu 460 millions de dollars à Take-Two, c'est du génie comme tu dis, à libérer Saber Interactive. Ça en dit aussi long sur l'état du jeu vidéo actuellement.
Tu sais, pour moi, ça me fait penser à deux choses. On a une fable qui s'appelle La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Et à la fin, elle éclate. Puis après, on a beaucoup parlé de Mozart de la finance. Je pense que le patron d'Embracer se voulait le Mozart de la finance du gaming. Le résultat est... pitoyable, on peut le dire, en termes d'image, le redispatch qu'ils ont fait en renommant les studios. Par exemple, à l'intérieur du studio, je crois qu'ils ont appelé Middle Earth and Friends, donc la Terre du Milieu et les Amis. T'as des jeux qui n'ont rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Donc t'es dans le studio, tu te dis, moi je n'ai rien à voir avec la choucroute, tu vois, trouve un autre nom de générique.
Il a perdu ses perles.
Il a perdu de l'argent. Enfin, ça, il y a de la casse sociale à gogo. Enfin, à quel moment ça marche. Et une fois de plus, à quel moment quelqu'un un peu sensé se disait ça va fonctionner, cet attelage complètement délirant? Bah, ça n'a pas fonctionné, que c'est écrasé sur soi-même. Quoi.
Souvenez-vous qu'il attendait 2 milliards d'un fonds saoudien, et c'est aussi pour ça qu'il a fait tout exploser. C'est quelqu'un, le patron d'Embracer, qui est un peu spécialiste de « je rachète des choses pour en espérant que ça marche pas, je dégage ».
Mais c'est du casino,
là,
en
c'est
fait.
Ça.
Et c'est là où, il y a quelques mois, années de cela, on parlait des NFT et compagnie et tout. Il y a une financiarisation extrême dans le monde du jeu vidéo qui est en train de dénaturer cette industrie. Alors, une fois de plus, je ne veux pas faire le grand naïf, etc. Nous sommes dans une industrie c'est fait pour générer de l'argent, aucun problème là-dessus. Mais quand ça devient trop extrême, et ben ça se casse la binette, et là on est en train d'en payer un peu les pots.
Embracer, c'était un peu ça quand même.
Ce monsieur, effectivement, ferait mieux d'aller jouer aux machines à sous s'il veut vraiment se donner le grand frisson comme ça, mais plutôt que vous misez sur un cheval, je ne sais pas.
Faire un jeu de casino éventuellement.
Oui, voilà, mais arrêter de gérer des sociétés. On le voit beaucoup, ce genre de grands requins de la finance. C'est même pas de la finance en fait, c'est plus du je sais pas.
C'est
de
l'entrepreneuriat.
L'entrepreneuriat, ouais. Mais poussé, oui, à l'extrême. C'est comme le vocodeur, c'est pas mal en soi. Daft Punk s'en sert, mais il faut pas
le
tout le temps à fond. Et à toutes les chansons.
J'aime bien le parallèle. Dernier temps fort de ce début d'année, moins fun si on dira, c'est la mort d'Akira Toriyama au mois de mars. Donc le papa de Dragon Ball, de Chrono Trigger, de Dragon Quest, c'est ça que j'oubliais. Petit jeu. Et Blue Dragon, on en avait parlé, Menro, tu étais là, sur l'impact que ça avait eu sur le jeu vidéo. C'est paradoxalement une perte qui vraiment a secoué tout le monde. Mmh. On pourrait se dire, c'est un mangaka, y en a d'autres. Il y avait vraiment un impact sur le jeu vidéo fort, d'inspiration.
Bah, disons que, alors au Japon particulièrement, la série Dragon Quest, c'est une des séries reines. Nous, en Europe, on a beaucoup plus Final Fantasy. Les Japonais ont la chance d'avoir les deux. Et c'est vrai que pendant très longtemps, ça a été la série la plus importante. Et effectivement, Akira Toriyama était le designer, le chara-designer de cette saga-là. Après, évidemment, on se souvient, pour les plus anciens, de Chrono Trigger, dont tu as parlé, hein, qui fait partie tout le temps dans les top jeux des JRPG ou des RPG tout court.
Grandiose.
Voilà, il est tout le temps il se dispute la place avec Final Fantasy 6 et 7 en général. Hein, voilà.
Écoutez cet homme, il parle de vérité.
Et d'ailleurs, moi je suis en train de refaire le 6, parenthèse. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne faut pas juste le cantonner à, effectivement, c'est le mangaka derrière Dragon Ball. Parce qu'effectivement, c'est une œuvre maîtresse de sa vie, mais il y a aussi Dr. Slump, il y a eu d'autres choses, il a été remarqué très très jeune. Et c'est surtout c'est l'importance de ce qu'il a créé au-delà du manga Dragon Ball. C'est la façon dont le manga a évolué sous l'impulsion de Toriyama. C'est, quand on cite les grands noms comme ça, il y a Osamu Tezuka qui est un petit peu le premier, un peu le père, le Walt Disney, c'est comme ça que souvent on le décrit, c'est celui qui faisait Astro Boy ou plein de mangas très politisés que les gens devraient lire en ce moment. Et du coup, après, il y a ce Akira Toriyama qui explose tout avant ce qu'on appelle le Big Three, qui arrive avec Naruto, One Piece, etc. Et tous ces créateurs actuels se réclament de Toriyama dans la dynamique, le rythme de la pagination. Il a réussi à faire un vrai transfert, une évolution majeure, et quelque part, ça a inspiré aussi les créateurs de jeux vidéo. Il n'y a qu'à voir, je ne sais pas si on a fait la liste du nombre de jeux Dragon Ball qui existent, mais elle est faramineuse. Il y en a encore un qui arrive en fin d'année, que j'attends de pied
Starting
ferme.
Starting Zero.
Tout à fait. Et voilà, donc oui, Toriyama, c'est quelqu'un qui a marqué la pop culture, et au-delà de ça, qui a une résonance même dans la culture tout court, quoi.
Non.
Il est iconique, il a donné au monde de la culture absolument transpartisane, internationale, etc., des choses folles, quoi, le Kamehameha. Même sans avoir regardé Dragon Ball, tu le connais,
tu le connais,
sais.
Ouais.
Et puis quand même sur cette année, Sandland,
bah oui.
Dragon Ball Sparking Zero, deux jeux.
Où, on sait qu'il
de
y a
fait,
Dragon Quest
ça passe, c'est là quoi. Il y a Dragon Quest qui a été annoncé avec un retour en HD 2D. Bah, ça montre à quel point, même sur une année, on va dire un peu en demi-teinte,
il est toujours là, de manière
totalement linéaire. Donc oui, il va véritablement manquer quoi.
Et ben voilà. Ben, retrouvez l'épisode de multijoueur. On avait parlé de Sandland avec Menro qui en parlait avec le même enthousiasme, mais qui avait le droit à plus de temps. on va parler jeux quand même parce que dans cette année. Pas funky niveau
oui,
news.
Parce que là, pour l'instant, les temps forts, c'est quand même des temps
les
faibles.
Les temps forts, ouais, c'est clair.
Non, mais on se rend compte à quel point ça donne un peu la teneur de cette année.
La teneur de ça. Summer Game Fest, on l'a dit, en demi-teinte. Mais on a quand même eu des jeux pour se faire plaisir. Julien, qu'est-ce que tu retiens de ce début d'année? Un jeu, attention.
Alors, pour commencer. Bah justement, on va repartir au tout début d'année. Parce que souvent, on a tendance à oublier, tu vois. Prince of Persia, The Lost Crown, d'Ubisoft. Pour moi, ça a été vraiment une très belle surprise. Parce que, je vais être honnête avec vous, la première fois où j'ai vu les images, etc., j'ai fait... Oui, alors moi j'aime bien Prince of Persia, mais
c'était le parti pas celui pris qu'on attendait, hein.
De direction artistique et de machin et tout, c'était pas forcément mon truc. Et puis j'y ai joué, ce qui est important pour un jeu vidéo quand même. Et là, soudainement, j'ai fait, mais attends, le gameplay est rodé, la technicité sur la plateforme, les petites énigmes, l'ambiance générale, c'est vraiment la patte de Ubisoft Montpellier, qui sont les créateurs des Rayman, et on retrouve vraiment cette excellence dans le gameplay. Donc franchement, allez-y, foncez. Il est disponible partout, ce qui, à mon sens, a peut-être été justement l'une de ses faiblesses, parce que la plateforme libre, c'est la Nintendo Switch, ce qui n'a donc pas permis d'avoir un visuel peut-être un peu plus clinquant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quelques années après les sorties des PS5 et Xbox Series, on parlait vachement de la claque next-gen et machin, et comme elle tarde un peu à venir, mais que les gens ont investi quand même plus de 500 euros, ils ont envie d'avoir ce genre de visuel, et là... Bah c'est
ça va pas du tout là, ouais, c'est clair.
Voilà. Mais bon, cela dit, moi je trouve que le visuel dans un jeu vidéo est la première chose qu'on oublie lorsque le plaisir manette en main est là. Et fondamentalement, au-delà du fait que c'est loin d'être moche,
il
y a des décors super beaux, etc. Mais l'ambiance, le gameplay, le game design, le level design est fabuleux. Donc pour moi, ça a été une vraie démonstration de l'excellence de ce qu'est un jeu vidéo.
Moi, je recommande aussi, et je trouve que c'est un jeu qui a été sous-coté.
Complètement.
C'est un excellent jeu, mais comme tu le dis, et j'étais la première à être un peu rebutée par le visuel, la première fois qu'on nous l'avait présenté au Summer Game Fest l'année dernière, il faut le prendre en main. Il faut vraiment le prendre en main, et sur Switch, il tourne excellemment bien. Moi, je l'ai testé
c'était
sur Switch,
but.
Mais je ne joue pas sur Switch à ce jeu-là. Toi aussi, tu l'avais bien aimé, Menro.
Je l'ai dans mon petit top que tu nous as demandé de préparer. Je suis déjà un très grand amateur de Metroidvania, ce genre-là qui réunit donc le meilleur de Metroid et le meilleur de Castlevania, pour le coup je l'ai adoré aussi. J'ai écrit un article fleuve sur le grand pop dessus. C'est un jeu que j'ai quasiment platiné. J'ai vu qu'il y avait en plus de nouveau contenu qui est rajouté. Il va y avoir un DLC, alors là il y a du contenu gratuit qui est rajouté, il va y avoir du contenu additionnel payant dans quelques temps. C'est un jeu qui est assez fantastique, effectivement, à prendre en main. Les sensations qu'on peut ressentir, la fluidité, je parlais de rythme tout à l'heure, encore une fois, sont incroyables. Il n'y a pas de faute de goût. Effectivement, on rattrape par un très bon chara-design, j'y reviens, ce que la technique peut laisser un peu de côté. C'est vrai que si on s'arrête aux textures et tout ça, des décors, on est vraiment sur des grands ensembles qui peuvent faire penser à des jeux mobiles ou ce genre de choses. Par contre, derrière, il y a une création, visuelle, une esthétique qui est vraiment maîtrisée.
Et puis le gameplay est pas simple. Donc faites Prince of Persia, The Lost Crown, c'est notre reco à tous les trois de jeux vraiment surprise.
Et surtout, je rajoute juste un petit truc, si vous êtes justement comme moi adepte des Metroidvania de ce genre-là, il a quasiment dès le départ, le set de pouvoirs qui permettent de se déplacer, etc. Et là où il est encore une fois assez bluffant, c'est que il arrive à réinventer des mécaniques tout en restant dans l'ADN de la saga, à savoir gérer le temps, revenir en arrière, etc. Et c'est des trouvailles des features de gameplay qui sont vraiment innovantes dans le genre. Donc c'est vraiment, 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 je pense, un des jeux de l'année.
Sur vos jeux de ce début d'année, tous les deux, vous étiez d'accord sur deux titres qui semblent un peu évidents, Final Fantasy VII Rebirth, ça, et Elden Ring, le Shadow of the Erdtree.
Bien sûr.
Voilà. Final Fantasy VII Rebirth. Alors, vous êtes quand même sur deux jeux un peu de niche, hein, je suis désolée de vous le dire, mais...
les niches, parfois, sont très sympas. là, c'est une niche d'excellence, quoi. Franchement, pour moi, c'est un jeu qui est d'une générosité. J'ai retrouvé,
alors,
pour la première fois depuis longtemps...
Final Fantasy ou Shadow?
Ah oui, parce que
lequel,
Final
parce
Fantasy
que...
7 Rebirth, la renaissance. Donc, deuxième opus de cette trilogie de remake. J'avais pas mal de choses à redire sur le remake initial, qui avait vraiment rallonger un peu la sauce, là, un peu délayé, parce que Midgar, initialement, qui se faisait en quoi 6-8 heures, était transformé en 40 heures de jeu, donc forcément, bon, t'étires un petit peu. Là, c'est pas encore exempt de petites facilités et de moments dispensables. J'ai pas été ultra adhéré à la fin, je dois le confesser, mais quelque part, au moins, il y a une vision qui est donnée. Mais alors, pour le reste, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé Square Enix revenu à un moment où je faisais « Attends, c'est super beau, il y a un bon rythme, il se passe plein de choses, il y a une générosité, il y a énormément d'à côté, parfois peut-être un peu trop sur les mini-jeux qui sont...
pas tous au même niveau.
Exactement. Ouais. Donc c'est un jeu où tu sens que les développeurs se sont lâchés, ils ont voulu se faire plaisir, j'avais eu la chance de pouvoir les rencontrer et vraiment ça se sentait, tu vois. Je trouve que l'une des chances de notre métier, c'est de pouvoir être au contact aussi avec les créateurs. Et parfois, avant même de jouer à un jeu, tu sens si ça va bien se passer ou pas, à l'attitude et à la manière de parler des créateurs. Et là, tu sentais qu'ils s'étaient donnés. Après, ça marche ou ça marche pas, ça c'est encore autre chose. Et effectivement, les ventes sont pas au rendez-vous qu'ils espéraient. Mais ça, bon, ok. Mais eux, ils ont livré une partition. Et en parlant de partition, les musiques sont extraordinaires. Les
comme souvent dans Final Fantasy.
Là, les level, là, je veux le concert tout de suite.
Il y a 400
vraiment,
morceaux, je crois, dans la playlist sur Spotify. C'est officiel.
Ça dit tout. Ouais. Alors là, tu vois, tout à l'heure, je critiquais un peu le plus, le mieux et machin. Mais là, justement, ils ont monté tous les taquets. Donc, le plus, il y est. Mais le mieux par rapport à Remake est vraiment là. Le Gold Saucer, qui est cette espèce de zone un peu Disneyland où t'as plein de jeux, etc., ils l'ont transcendé encore. Il y a des trucs assez fous. Et je trouve que ce qui est, et je conclurai là-dessus, très intéressant, c'est que de plus en plus, on voit vraiment, en termes de direction artistique et même presque de philosophie de jeu, le Japon reprendre ses fondamentaux. Ouais. C'est-à-dire une exubérance, des trucs parfois qui, pour nous, Européens, peuvent paraître un peu bizarre, voire même un peu choquant sur certains aspects, mais c'est très bien, je trouve qu'ils le fassent, pour qu'on ait cette diversité dans l'industrie du jeu vidéo. Le Japon, il y a quelques années, était un peu en difficulté, ils ont voulu vraiment s'occidentaliser sur leur jeu, je trouve que ça leur a pas très fortement réussi. Là, ils reprennent leur identité, et je trouve que ça marche.
Mais ça, c'est ça, on en avait parlé aussi de ce jeu-là, sur le côté renouveau.
Rebirth.
En assumant, Rebirth total. Bon, Elden Ring, on en a parlé en long, en large et en travers il n'y a pas très longtemps. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est un truc de fou. Je voudrais qu'on parle, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, du jeu sur lequel vous étiez d'accord comme déception, qui est Hellblade 2. Alors, moi, je t'en perdrai. Senua's Saga, qui pour moi est une claque graphique absolue.
Je suis d'accord.
Le jeu next-gen qu'on attendait enfin. Mais c'est en revanche, l'un comme l'autre, vous n'avez pas été emballé sur le gameplay.
J'ai retrouvé exactement ce que je reprochais au premier volet et j'espérais que la hausse de qualité ne soit pas que visuelle, mais soit aussi justement dans une compréhension de l'évolution de ce qu'a pu être. Là, on a vraiment un sentiment de minimalisme pour rester poli et je ne comprends pas comment est-ce que quand on voit ce qui se passe à côté et les retours qu'il y avait déjà eu sur un premier volet, comment est-ce qu'on peut se cantonner quelque part à...
du beau
Ouais.
Juste du beau.
Du magnifique même.
Mais oui, alors par contre, c'est là, sublime.
Moi, j'ai jamais pris une claque visuelle aussi impressionnante qu'Hellblade 2. C'est la démonstration, enfin, de cette fameuse claque next-gen. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais je suis d'accord avec Menro. Sur le reste, pour moi, c'est même une régression en fait, par rapport au premier opus. Je veux dire, le premier était un jeu globalement indé plus, quoi. Ils avaient leur petit financement en interne, etc. Là, tu te fais racheter par Microsoft. À minima, tu te dis quand même que tu as le soutien. C'est le but du jeu quand même. Quand tu es racheté par une grosse corporation comme ça, tu vas avoir plus de moyens, etc. Sur le gameplay, pour moi, ça n'a pas évolué d'un iota, mais vraiment. Et sur l'histoire, je suis désolé, mais quand... enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup moins fou que le premier, et donc en cela, une régression.
Effectivement, il y avait des promesses autour de comment est-ce qu'on pouvait réinterpréter tous différents états mentaux différents de la folie, mais pas que. Et finalement, ça reste plutôt un effet d'annonce,
à quelque chose.
Voilà,
une fin abrupte, un jeu qui. Enfin, moi, j'ai presque l'impression qu'il y a des éléments qui n'ont pas été mis, qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire, alors qu'ils ont quand même eu 5 ans. Il n'y a que deux géants, dont un qu'on a vu à 99% en trailer. Mais il n'y a pas grand-chose à spoiler.
Le jeu fait 8 heures.
Et en plus, autre point, le soutien inexistant de Xbox pour le jeu,
pour le point,
très
me pose quand même des questions.
Très étonnant d'avoir de la com vraiment qu'à une semaine, 10 jours.
Même pas un tweet de Phil Spencer.
Ouais, c'est rien. Mais c'est la période où il avait disparu d'un autre côté.
C'est sûr que quand on voit en face, on
le retweetait.
Ouais.
En face, on a un God of War Ragnarok qui transcende tout en termes de gameplay dans un genre. C'est pas les mêmes jeux.
C'est pas pareil.
C'est autre chose. Mais moi, j'adore les Walking Simulator. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. J'ai pas de problème avec une narration lente, posée, l'observation, machin. D'ailleurs, j'ai bien aimé le premier. Mais là, vraiment, c'est tu pousses le stick vers l'avant, t'as à peu près 2 interactions et demie en 6 heures de jeu, c'est tout. Et donc, ce cas-là, pas, pourquoi pas, mais il faut que l'histoire soit extrêmement puissante. Pour moi, elle ne l'est pas.
Ouais, si vous faites un bon walking simulator, jouez plutôt à Death Stranding.
Bravo.
On
va arriver au bout de cette émission, messieurs. Qu'est-ce qu'on pense de ce début d'année? Qu'est-ce qu'il dit de l'industrie et de l'état du jeu vidéo? Est-ce que c'est un bon début d'année, Julien?
Écoute, si j'en crois cette émission, je trouve que pas forcément, non, quand même. Hein,
parce pas
que
la plus funky.
On a vu. Moi, j'ai eu des retours de beaucoup de mes viewers qui me disaient, Julien, c'est terrible. Pendant cette première moitié d'année, t'as parlé plus de licenciements que d'annonces de nouveaux jeux. Et ils ont raison. C'est-à-dire que là, ça s'est re-excité un petit peu avec la Summer Game Fest, etc. Mm. On a eu pas mal d'annonces. Et la deuxième moitié d'année s'annonce un tout petit peu plus forte, même s'il n'y a pas énormément de surprises non plus.
Qu'est-ce que tu attends comme jeu, là?
Star Wars Outlaws, parce que ouais, pour moi, il est extrêmement important pour Ubisoft, et parce que bah, j'aime beaucoup Star Wars, et que je trouve qu'aujourd'hui, Star Wars est meilleur en jeu vidéo qu'en série ou en film. Donc, j'ai envie d'y croire, même si j'ai encore des petites interrogations, etc. J'attends beaucoup Black Myth Wukong aussi, et puis Astro Bot, qui pour moi a l'air, j'ai eu la chance d'y jouer, une petite boule de fraîcheur.
Ouais, ça fait du bien.
Le précédent titre était offert, et toujours offert d'ailleurs avec toutes les PS5, c'était vraiment un jeu canon. Là, ça a l'air d'être trois fois plus grand, trois fois plus riche. Bah, c'est ça le jeu vidéo, donc je pense qu'il faudra compter avec lui. Ouais.
Menro, t'es d'accord?
Oui, oui,
sur l'état
carrément
de l'année.
Bah, on arrive encore à s'enthousiasmer pour certains jeux, mais c'est vrai que dans l'ensemble, moi j'ai pas envie de, avec l'âge, devenir un des grands-pères du Muppet Show ou de faire mon Jean-Pierre Coff. Voilà, mais effectivement, c'est un peu compliqué en ce moment. On a beaucoup envie de hausser le ton et de rager sur quelques décisions, sur quand on analyse un petit peu ça depuis quelques années. Voilà, ça n'empêche pas qu'effectivement il y a quand même quelques petites choses qui arrivent en fin d'année. Voilà, on espère que cette apnée va arriver à son terme.
Ça veut dire que 2025, avec tout ce qui nous attend, oui, au-delà de GTA 6, ça annonce quoi? Moi, j'attends
2025-2026, à mon avis,
ça va être lourd. Je pense qu'on va avoir du monde. Moi, j'attends Indiana Jones et le Cercle.
Mais oui, moi aussi. Hein.
Je veux y croire.
Oui. Surtout depuis le dernier trailer.
Voilà, je veux y croire, Harrison Ford en personnage virtuel.
Et quelque part, même si initialement, tu vois, je m'étais dit, ah ouais. Bah en fait, j'adhère plutôt maintenant au fait de... Bah ça va être différent d'Uncharted, avec une vue à la première personne, etc. Donc on va être vraiment indie. En plus, c'est Richard Darbois en France à la voix. Donc ouais, non, clairement, je croise les doigts.
On en saura plus à la Gamescom fin août, qui marquera aussi le retour de l'émission. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus.
Merci.
Menro, on te retrouve sur legrandpop.fr.
Tout à fait. En podcast et sur le site, en l'occurrence.
Parfait. Julien, sur ta chaîne.
Chaîne YouTube, Julien Chiez, facile.
Comme d'hab. Facile à trouver.
C'est facile. Bonjour, je suis là. Soyez de la lumière. A priori, je serai là.
En tout cas, merci beaucoup à vous deux d'être venus éclairer ce début d'année beaucoup plus funky en plateau que dans la réalité. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en multidiffusion tout l'été sur la chaîne Tech & Co, sur le site Tech & Co, évidemment sur la chaîne YouTube et en podcast partout. On espère quand même vous avoir donné quelques idées de jeux, parce qu'il y en a quand même eu des bons. Et puis, on se retrouve eh bien, à la rentrée avec une fin d'année quand même un petit peu plus relevée, normalement. Jouez bien et bon été.